Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et c'est vrai que maintenant, à ces heures-ci, on est vraiment dans le soir. Avec les changements d'horaire, on arrive vers des Shabbats d'hiver qui ont un goût tout à fait particulier et très chaleureux. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel.
Rav Lemel vous dit bonsoir aussi.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Alors on avance dans notre étude hebdomadaire et donc on arrive à Parashat Noach, une des parashiot les plus universelles qui touche toute l'humanité. Et d'ailleurs justement, quand Dieu décide du déluge, il dit « La fin de toute chair est arrivée devant moi ». C'est le moment de la fin de toute chair. Mais c'est une façon bizarre de dire les choses. Et donc ça recèle tout un trésor d'enseignement que vous voulez nous faire partager ce soir.
Exact. Tout à fait. C'est vrai que cette histoire du Maboul, du déluge, elle est passionnante, en même temps bouleversante, parce qu'elle nous pose au fond ce qui va être tout l'enjeu de l'humanité, son échec, et donc sur la base de cela qu'elle doit être au fond sa reconstruction. Alors, si vous prenez un petit peu le texte, la Torah d'abord nous présente Noach, qui donc va être celui qui va refaire démarrer l'humanité, et on le présente comme étant tzadik, tamim. Un homme tzadik, juste, tamim, intègre. Et les commentateurs de nous dire déjà tzadik juste parce que Anav Shafel, c'était un homme qui était modeste, et puis tamim, intègre, parce qu'il avait la Torah. Alors, sous quelle forme, de quelle manière, en tout état de cause, on va mettre ça un petit peu de côté pour l'instant, mais il faut l'avoir dans un coin de la tête. Et puis après, Dieu dit à Noach qu'au fond, Vati Shachet Haaretz Lifnei Elokim, la Torah nous dit que d'abord la terre s'est pervertie devant le Créateur, Vati Male Haaretz Hamas, et la terre s'est remplie de Hamas. Et à ce moment-là, Dieu s'adresse à Noach et dit Ketz Kol Basar, la fin de toute chair est arrivée devant moi. Car la terre est remplie de Hamas, et donc maintenant, eh bien, il va y avoir le déluge qui va se mettre en place avec l'ordre de créer cette fameuse Teva, cette fameuse arche, etc. etc. C'est quoi cette notion de la terre qui s'est pervertie et de ce fameux Hamas qui est présent, qui semble vouloir dire, au fond, puisque cette notion de perversion et de Hamas sont là, alors la fin de toute chair est arrivée devant moi, c'est-à-dire que l'humanité n'a pas sa raison d'être, comme si c'était une forme de dimension inéluctable, c'est-à-dire c'est dans l'ordre des choses. Si ces deux éléments qu'on va essayer d'expliciter dans quelques instants sont présents, alors Ketz Kol Basar, c'est au fond une forme de l'humanité s'est sabotée elle-même, elle se saborde, et donc ça va s'arrêter. Alors, c'est quoi ces deux éléments? Vati Shachet Haaretz, le texte nous dit, et le Midrashim nous le développe aussi un petit peu, on est dans une forme d'immoralité au niveau des mœurs. Mais alors, ce qui est très intéressant à voir, c'est que, au fond, l'humanité a décidé de vivre dans une forme de carpe diem permanent, surtout au niveau des mœurs. Mais même si ce que je vais dire est un petit peu provocateur, au fond, tout le monde était consentant. Donc, où est le problème? Quelque part, voilà, l'humanité avait décidé. Alors, le Midrash est très loin. Il dit les gens se promenaient quasiment nus, voire même totalement nus à l'extérieur. Et puis voilà. Il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient se passer. Hamas, c'est quoi, dit le Targum Khatoufin, ils se volaient les uns les autres. Quelles sont ces deux notions qui font que, au fond, l'humanité ne peut plus continuer? Rappelons-nous que lorsque Dieu crée l'univers et celui qui va en être son couronnement, c'est-à-dire l'être humain, il va le créer Betsalmo à son image. Alors c'est quoi l'image? Au fond, c'est quoi être à l'image de Dieu, puisque Dieu n'a pas de corps, enfin, c'est quelque chose que l'on ne peut concevoir même. Eh bien, c'est ce que l'on appellerait la yichudiyut, c'est-à-dire la dimension unique et singulière de l'être. En effet, Dieu est unique, il est, même si le terme est très réducteur, singulier, eh bien, chacune et chacun d'entre nous est unique et aussi singulier. Et on le voit de manière extrêmement claire à travers ce visage qui est différent. Et même quand vous avez, c'est rare, mais ça peut exister, des sosies, il suffit que vous parliez aux deux personnes qui physiquement se ressemblent et vous allez tout de suite prendre conscience qu'elles sont différentes. Au fond, la notion du tselem est là pour nous rappeler que nous avons une singularité et que cette singularité nous engage à une responsabilité. L'idée que j'avais déjà une fois développée ici, à votre antenne, et qui est fondatrice. C'est-à-dire que l'être singulier, fait à l'image de Dieu, a une mission unique à remplir sur Terre. Et c'est pour cela qu'il est présent. Or, lorsque l'humanité décide de se laisser aller complètement à ses instincts premiers, eh bien, on met de côté le tselem, on met de côté cette singularité, cette responsabilité, cette question du projet, on vit pour l'instant présent, on se met tous au même niveau, ce sont, pardonnez-moi de le dire de cette manière, un peu les hormones qui gouvernent, et puis ça s'arrête là. Et ça, c'est donc déjà le premier élément. Dans la mesure où l'individu, à travers son comportement, eh bien, révèle que ce n'est pas tant cette dimension unique et singulière qui l'intéresse, mais c'est avant tout de vivre pour le plaisir, en faisant du plaisir une finalité, et puis ça s'arrête là, eh bien, première raison pour laquelle Dieu dit, bah, au fond, si c'est comme ça, l'humanité n'a pas sa raison d'être. Et donc, à partir de cela, eh bien, elle ne continue plus. Et puis, on a le vol. Alors, le vol ici, c'est très intéressant, parce que si on réfléchit, c'est quoi le problème du vol ? Si je vais chez un couturier et ou alors chez un charpentier, chez un serrurier, et je lui prends ses outils de travail, il ne peut plus réaliser ce qu'il doit mettre en place. Or, nous savons que tout ce qui nous appartient sont autant d'outils que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir créer notre projet d'existence. Voler quelqu'un, c'est nier son projet de vie. C'est dire, au fond, cette personne n'a pas sa raison d'être. Parce que si vous prenez les outils de quelqu'un, vous considérez qu'il n'a pas de projet à réaliser. Et c'est ça aussi l'état d'esprit de l'humanité à l'époque. Quand je vois quelque chose chez quelqu'un, dans la mesure où cette chose me plaît, je la prends. Un petit peu ce principe anarchiste que les objets appartiennent à ceux qui en ont besoin. Mais comme j'ai décidé que j'en avais besoin, alors c'est pas grave si c'est chez l'autre, ça va venir chez moi. Ah mais l'autre, cet élément qui est là, fait partie de ce dont il a besoin pour créer son projet de vie, ça c'est pas mon problème parce que ce concept au fond n'existe pas. Et au fond on est ici dans une forme de parallèle entre, il y a à la fois ce système dans lequel c'est avant tout les hormones qui gouvernent, dans lequel ce qui est important c'est le ici et maintenant, dans lequel c'est le corps qui va être au centre, le plaisir pour le plaisir, et aussi la négation de l'idée même d'un projet. L'individu va faire ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre un quotidien qui se conjugue au plus que parfait, mais l'idée d'un projet qui est lié à cette singularité, qui le renvoie donc au questionnement du pourquoi de sa présence dans l'univers, ne l'effleure d'aucune manière. Et donc à partir de cela, eh bien, Ketz Kol Basar Balefanaï. La fin de toute chair arrive. Au fond, c'est la conséquence inéluctable. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quoi ? C'est que, eh bien, l'humanité va disparaître sous les flots, sous l'eau. Mais pourquoi ça ? Pourquoi est-ce qu'au fond, Dieu décide de mettre en place ce système qui est le Maboul ? L'eau est, comme le définit très bien le Maharal de Prague, « Chomer Belotsura », c'est-à-dire la matière qui n'a aucune forme. En effet, l'eau prend la forme du contenant dans lequel elle se trouve. Elle représente la matière à l'état brut, la matière qui n'est pas là et qui ne remplit pas pour l'instant de fonction parce qu'on ne lui a pas donné encore cette fonction, parce qu'on ne l'a pas mis encore dans un cadre. Au niveau du symbole, c'est ça que représente l'eau. Et ce qui est très intéressant, c'est que un personnage fondateur qui s'appelle Moshe, Moïse, eh bien lui, pourquoi on l'appelle Moshe ? Kimin Hamaim Meshitiou, parce que justement, il sort de l'eau. Et dit le Maharal, parce que justement, Moshe est celui qui, à travers la révélation de la Torah, va nous apprendre comment donner une forme à chacun des éléments qui sont présents dans notre vie. Que tout ce qui fait partie de notre existence, tout le matériau de notre vie, quel qu'il soit, il est là pour remplir un but. Il a une fonction particulière et c'est ce que la Torah va nous apprendre à faire. Et donc, cette humanité qui a décidé qu'il n'y a pas de finalité, que la finalité de l'humain c'est lui-même, que ce qui est important c'est le carpe diem, c'est le ici et maintenant, que l'idée du projet n'a pas pas du tout sa place, que la singularité va être mise de côté parce qu'elle ne représente rien, eh bien cette humanité disparaît sous l'eau. Parce qu'au fond, c'est cette eau qui représente le matériau qui n'a pas de forme, eh bien qui l'a fait disparaître. On a ici donc un enseignement quand même qui est passionnant, parce que quand Dieu, à la fin du déluge, va prendre cet engagement de ne plus refaire de déluge, quelque part, la Torah est en train de nous dire que, comme si on pressentait qu'à la fin de l'histoire, on risque de se retrouver un petit peu dans la même problématique, on risque de se retrouver un petit peu dans la même difficulté, mais il faut qu'il n'y ait surtout plus le déluge, parce que sinon, ça n'ira pas. Mais pourquoi, au fond, ça pourra continuer à aller? Parce que, et je conclue là-dessus, au moment où Dieu va dire à Noé de faire son arche, il peut le sauver autrement, il n'a pas besoin de lui faire faire une arche. L'arche de Moïse, pardonnez-moi, et ça serait encore tout un long développement. Au moment où il a construit, il interpelle, vous savez, cette fameuse chanson, cette comptine qu'on avait l'habitude de chanter, « Noé, Noé, pourquoi ce bateau? Il n'y a pas la moindre goutte d'eau. » Il est là pour dire aux gens, vous savez, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, mais il va se passer quelque chose. Réfléchissez un instant, interrogez-vous. C'est un petit peu la fonction du peuple d'Israël dans l'histoire, c'est d'amener l'humanité aussi à s'interroger sur sa finalité, sur le fait que chacune et chacun des membres de cette humanité a une singularité, et à la fois de par ce qu'il est, de par son appartenance à un peuple, à une civilisation, et qui doit se poser la question de sa responsabilité, de ce que l'on attend de lui. Voilà un petit peu ce à quoi cet épisode nous amène, entre autres, évidemment, à réfléchir, et pas juste à réfléchir, à nous amener justement à assumer pleinement cette dimension singulière et unique qui nous habite chacun, et qui par la suite s'inscrit dans le cadre du peuple, pour pouvoir véritablement mettre en place ce qui est le projet de notre vie.
Magnifique. Alors, vous savez, on aime tous un peu, nous qui ne sommes pas des grands érudits, de chercher un peu comme ça dans les mots, dans la paracha, quelque chose qui est en liaison avec notre vie. Alors, je me suis dit, c'est marrant, c'est la paracha de cette semaine, elle parle du Hamas. Et après, dans votre développement, je ne sais pas si vous avez noté que vous avez parlé des Khatoufim. Je me suis dit, bah, décidément, c'est vraiment...
Exact. Chose qu'on s'approprie complètement.
La paracha est toujours liée à son contexte, toujours. Ravi Louis Lemel, je vous remercie et je vous souhaite un grand et beau Shabbat. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Part pour Jérusalem, où l'on retrouve Rav Mordechai Biton. Rav Mordechai Biton, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
À Jérusalem. Shabbat shalom. Vous avez chaud encore à Jérusalem? Parce que nous, ça commence à bouger. Hein.
La nuit, on commence à sentir qu'il fait un peu frisqué. Plus dans la journée, il fait très bon.
Ah. Rav Mordechai Biton, vous allez nous poser une question qui va nous surprendre. Avec quoi on regarde? Alors, si vous nous posez la question, moi, intuitivement, je vais dire, ah, il veut nous demander si on regarde avec les yeux ou avec le cœur, ou avec le cerveau, j'imagine. Mais là où vous, ce qui n'est pas faux, avec quoi on regarde? Avec son expérience, avec ses préjugés. Mais vous avez une question totalement étonnante. Est-ce qu'on regarde avec le visage? Est-ce qu'on regarde avec les yeux?
Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est une intervention que j'ai entendue par une équipe qui s'appelle l'équipe de Vayemahen. C'est une équipe qui diffuse des vidéos tous les jours et qui incite à la Shmira Tenaïm à faire attention à son regard. Ils prennent comme base le chapitre 9, verset 23. C'est le moment où la Torah relate l'épisode où Noach, dans son sommeil, va être agressé par Ham et où Shem et Yafet vont prendre une couverture et vont couvrir donc la nudité, nous dit-on, de leur père. Et le verset 23, il dit la chose suivante. C'est marqué « Vaïkar Shem Vaïfet ». Il a pris, on aurait dû dire au pluriel « ils ont pris », ça on connaît la question, il a pris, c'est Shem en fait qui a pris l'initiative, il a emmené Yafet derrière lui, et à Simla, ils ont pris le manteau. « Vaïsimu al Shrem Shneem ». Alors c'est intéressant, ils l'ont mis tous les deux sur leur épaule. Maintenant la Torah va décrire de manière pratique et concrète la manière dont ils se sont approchés de Noach pour le couvrir. Elle va dire la chose suivante. Vayelchu achoranit. Ils ont avancé à reculons. Donc on imagine, ils ont le manteau sur l'épaule et ils avancent à reculons vers leur père, donc ils ne le voient pas. Donc ils ne le voient pas, ils ne le regardent pas. Ils lui tournent le dos et ils avancent pour pouvoir, au moment où ils vont arriver à sa hauteur, mettre le manteau sur lui et le couvrir. Vayichasu et ervat aviem. Ils ont recouvert, ils ont caché la nudité de leur père. Et là, la Torah continue, ça va, on a compris. Ufneem achoranit. Et la Torah nous dit, leur visage était à l'inverse de ce corps qu'ils étaient en train de couvrir. Vervat aviem l'oraou. Et donc, il précise, la Torah précise, la nudité de leur père, ils ne l'ont pas vu. Ben, c'est très clair, le début du verset nous avait dit qu'ils ne l'ont pas vu, puisqu'ils avançaient à reculons avec la cape derrière eux, s'apprêtant à la jeter sur leur père sans regarder. Donc pourquoi revenir à nouveau et me dire que leur face était donc non pas face à leur père, mais leur tourner le dos, et qu'en plus ils n'ont pas vu? Ben, évidemment qu'ils n'ont pas vu. C'est qu'en fait ici il y a deux manières de regarder. Nous regardons avec les yeux. Ça, c'est clair. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on regarde avec nos préjugés, on analyse la réalité avec nos préjugés. Donc là, tout ça touche au cœur, au cerveau. On la regarde avec nos émotions, on la regarde avec nos conceptions. Donc, c'est le cerveau qui guide notre vision, c'est le cœur et les émotions qui guident nos yeux. Mais là, ici, on est en train de dire autre chose. On regarde avec les yeux, mais on regarde aussi avec le visage. Et là, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a un enseignement de nos sages qui est très surprenant, qui nous dit que si quelqu'un pouvait passer par un endroit dans lequel il y avait des choses indécentes, mais que finalement, il n'a pas vu de choses indécentes, il est quand même appelé rachat, il est quand même appelé impie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit avec les yeux, mais le visage lui-même est le support de ce qu'on appelle le tselem elokim. Le visage, vous savez qu'en hébreu, ça s'appelle panim, c'est l'intériorité. C'est quoi l'intériorité de chacun d'entre nous ? C'est l'esprit, c'est le discernement, et c'est l'âme. Et comment s'exprime l'âme ? Elle s'exprime par ce qu'on appelle le tselem elokim. C'est ça le tselem elokim. En français, l'image de Dieu, ça ne veut rien dire, c'est un mot creux. Tselem elokim, c'est-à-dire la présence divine à l'intérieur de l'homme, elle s'exprime sur son visage, panim, son intériorité. Et c'est quoi l'intériorité ? C'est son âme et son esprit. Donc il se peut que je ferme les yeux, ou il se peut que je passe par un endroit où je ne vois pas des choses indécentes. C'est vrai, mes yeux n'ont pas vu, mais mon tselem elokim, c'est-à-dire la partie divine qui est sur mon visage, imprégnée sur mes joues, sur mon nez, sur mon front, celle-là, même si les yeux n'ont pas vu, elle a été imbibée de l'esprit de cet endroit où je suis passé. Et si même j'ai fermé les yeux, admettons même que je passe à un endroit où il y a des choses indécentes, mais je ferme les yeux, donc mes yeux ne voient pas, mais mon tselem elokim, lui, il voit. Et en fait, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est ce que va dire le Halcher, c'est le Halcher HaKadosh. Le Halcher HaKadosh était un kabbaliste. Le Halcher HaKadosh va dire, on voit principalement avec deux parties, les yeux et le tselem elokim, c'est-à-dire les visages, le front, le nez, les joues, le menton, la bouche, les oreilles. Ben, en vérité, nos yeux, ils ont une fonction de fenêtre, et les images qu'on enregistre, elles rentrent dans notre cerveau, et elles imprègnent des émotions, et elles créent des cognitions, ça c'est les images. Mais notre tselem elokim, c'est-à-dire la partie divine qui est en nous, celle-là, même si on ferme les yeux, elle s'imprègne de ce qu'il y a autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle nos sages nous disent qu'on doit faire très très attention à ne pas tourner notre visage, même si on ferme les yeux, vers des choses qui sont indécentes. Alors j'entends d'ici la chorale des gens qui vont nous dire ça va être facile, ça va être difficile hein, dans certains pays, dans certains endroits. Comment ? Vous voulez rester dans une grotte ? Comment ça marche ? On est simplement en train d'attirer l'attention sur un fait qui est un fait important. D'accord ? Il y a le regard et il y a l'imprégnation. C'est très important pour un homme, bien sûr, de faire attention à ce qu'il regarde, un homme ou une femme d'ailleurs, mais c'est très important aussi de faire attention à ce à quoi on s'imprègne. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nos sages nous disent qu'il faut avoir des photos de tzadikim chez soi. « Vayu enecha ro'ot et morecha » que tes yeux voient tes maîtres. Mais c'est également, vous savez ce que ça nous envoie. En vérité, quand vous êtes dans une maison dans laquelle il y a des livres de Torah, il y a des images de Torah, des images de tzadikim, ben vous vous imprégnez de ça. Le spectacle visuel s'imprègne en nous. D'accord ? Je vais vous dire comment ça fonctionne. Ça fonctionne aussi même dans l'étude de la Torah. Par exemple, quand vous étudiez de la halakha, alors quand vous étudiez la halakha, c'est-à-dire la loi, la législation, vous allez étudier les textes du Talmud, les textes des commentateurs et des décisionnaires, et là, c'est votre démarche à vous d'arriver à construire une compréhension pleine et entière de ces textes-là. Mais voyez, par exemple, la Gemara, c'est très intéressant. J'entends plein de fois des gens qui me disent « ça fait des années que j'étudie la Gemara, je ne comprends rien ». Parce que la Gemara, c'est le contraire, c'est elle qui vient vers nous. Selon la disponibilité de cœur et d'esprit qu'on a développé, la Gemara, avec Rashi et Tosfot, elle rentre en nous. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, ça fonctionne beaucoup avec ce à quoi nous prêtons notre visage. Lorsqu'un individu prête son visage à des choses qui sont indécentes, eh ben, il y a une Torah qui ne peut pas rentrer en lui. Par contre, même s'il ne regarde pas, mais par contre, si l'individu fait attention à ne pas prêter son visage à des choses indécentes, eh ben, il y a beaucoup de Torah qui peut rentrer en lui. D'accord ? Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'effectivement, on regarde avec les yeux et tout ce qui va avec, mais on s'imprègne aussi avec ce vers quoi on tourne notre visage. À réfléchir. C'est un sujet qui est au cœur de la paracha, parce que vous savez qu'au départ, on nous raconte que le monde a été détruit. C'était un monde indécent. Le monde des 300 dernières années qui ont précédé le Maboul, le déluge, était un monde auquel notre monde occidental commence un petit peu à ressembler, d'une certaine manière. On vit dans un monde un peu taré. Et c'est un monde rempli d'indécence, dans les faits, dans les images et dans les comportements. Puis ensuite, après, le monde a été détruit. L'épisode qu'on nous raconte ici, c'est un épisode qui se situe à la sortie de la Tevat Noir, à la sortie de l'Arche de Noé. Et c'est en quelque sorte pour nous dire qu'un monde qui recommence, là, on est maintenant après les fêtes, on est après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, après la Soukha qui est comparée à la Teva, à l'Arche de Noé. D'accord ? Eh bien, dans un monde qui recommence, la première chose qu'un homme doit gérer, c'est à la fois son regard et aussi vers ce vers quoi il tourne son visage. Voilà, j'invite à chacun à y réfléchir. Regardez les commentateurs, chapitre 9, verset 23, tout ce qui va autour, intéressant. Shabbat shalom.
Ramordechai, Shabbat shalom à Jérusalem. Et pour illustrer, tout en parlant évidemment sous votre contrôle, mais pour illustrer ce que vous voulez dire, c'est qu'on constate la même chose avec les bougies de Shabbat. Quand elles sont allumées, d'abord déjà nos visages reflètent différemment, mais surtout ils amènent une bracha dans la maison qui est inexplicable pour celui qui ne l'a pas vécu. Donc je pense que, donc je voudrais dire, après ce que vous venez de nous expliquer, la mitzvah d'allumer les bougies est une mitzvah différente de celle de respecter Shabbat. Donc se dire non, mais moi je n'allume pas les bougies parce que je sais très bien que je ne fais pas Shabbat, je vais allumer la télé tout à l'heure, ce n'est pas vrai. Au contraire, ça apporte tout ce que vous venez d'expliquer. J'ai raison, non ?
Tout à fait, ouais. Et je voudrais ajouter un mot s'il vous plaît, en rapport avec l'actualité, c'est qu'il faut regarder les tzadikim, il faut regarder des gens qui étudient la Torah, il faut regarder des gens qui savent se comporter, mais moi j'invite aussi les gens à regarder les soldats qui reviennent du combat. Ils sont imprégnés d'une force extraordinaire. Si on veut s'imprégner de force aujourd'hui, on peut regarder aussi le visage de ces gens-là. C'est des bougies, c'est véritablement des nérodes. Voir ces soldats qui reviennent du combat, qui sont forts, qui sont imprégnés de courage et de bravoure, c'est aussi un moyen de s'imprégner de bravoure et de courage. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil aussi sur l'actualité.
Allez, Ramordechai Biton à Jérusalem, Shabbat Shalom, bonsoir à vous.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors Rav Gué, vous avez une question que je crois beaucoup de gens se sont posées. Mais pourquoi Sarah a deux noms ? Alors elle s'appelle d'abord Sarai, après Sarah. Mais pourquoi finalement elle a deux noms ? Dites-nous.
Elle a même trois noms, puisqu'elle s'appelle Iska.
Ah,
à la fin de la paracha.
Ah, ah, ça fait beaucoup.
Elle s'appelle Iska. Jessica en français.
Ah, c'est beau.
Alors, on la présente en fait comme étant la femme de Avram. D'abord, il s'appelle Avram, puis après, il devient Avraham. Là, elle s'appelle Sarai. Puis après, effectivement, elle va changer de nom, elle s'appellera Sarah. Mais avant cela, elle est présentée comme la fille de Haran, et qui s'appelle, elle s'appelle à ce moment-là Iska. Alors, c'est assez étonnant de voir ce changement de nom, ces différents noms. On se demande d'où ça vient. Il est intéressant de voir le Midrash, qui nous dit que celui qui se marie avec une femme, l'Eshem Shamaim, c'est-à-dire pour vraiment construire un couple et pas simplement pour s'amuser, mais qui fait vraiment une construction durable d'un couple, eh bien, il loue Yelda. C'est comme s'il lui avait donné naissance. C'est comme si elle était née grâce à lui. Le mariage donne à l'homme une sorte de filiation. Madame est la fille de son mari, parce que justement, il s'est marié avec elle, j'aime jamais. Alors c'est vrai que ça a l'air bizarre, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que nos sages veulent dire, et le Maharal de Prague explique. Il nous dit la chose suivante. En fait, d'abord évidemment, une fille est la fille de son père, c'est son père biologique. Mais en fait, Une femme est censée, une fois qu'elle est mariée, prendre la tsoura, il appelle ça, vous savez, le langage du Maharal, c'est chomer et tsoura, c'est-à-dire de prendre une certaine direction grâce à son mari. Je vais essayer de vulgariser un petit peu les mots du Maharal, si vous me permettez, en l'expliquant de la façon suivante. Une femme cherche à avoir un homme qui lui donne une direction dans la vie, des perspectives, un vrai projet de vie, et lui donne une certaine tsoura, c'est-à-dire lui montre un chemin qu'elle va apprécier, accepter et auquel elle va adhérer. Évidemment pas un mari macho qui s'impose, mais un mari force de proposition. Une femme qui a ce genre de mari, c'est comme si elle avait été, on va dire, la fille un petit peu de son mari. Pourquoi ? Parce que son mari lui a donné un supplément dans sa vie, qui est celui tout simplement une orientation, une vraie vision de la vie. Et de ce point de vue-là, il lui donne une tsoura, il appelle ça le Ramaral, et donner une tsoura, c'est le rôle d'un homme. Et justement, Yiska, c'est quoi Yiska ? La traduction de Yiska, c'est en fait, le fait de beaucoup penser à Souka d'ailleurs, Yiska ça veut dire regarder, observer. Tout le monde l'a regardée parce qu'elle était belle, elle était particulièrement belle, Sarah, et en plus, elle avait une vision qui est la vision de Ruach HaKodesh, une inspiration divine incroyable. C'était la force de Sarah. On dit même que Abraham était en deuxième position après sa femme, comme dit Hachem à Abraham, Shema Bekola, écoute-la, tu dois écouter ta femme, elle a un supplément de vision prophétique que tu n'as pas. Et donc, cette vision de Sarah, qui est double, donc on la regarde parce qu'elle est belle, elle l'observe parce qu'elle a justement cette force de vision de Ruach HaKodesh, eh bien, ces deux qualités de Sarah, donc on l'appelle Yiska. Et en fait, en même temps, Yiska est la fille de son père, évidemment. Mais elle devient également la fille d'Abraham parce qu'elle va prendre avec Abraham une direction dans la vie. Abraham, on sait tous qu'il a donné à l'humanité tout entière une tsoura. C'est-à-dire qu'il était celui qui a enseigné le monothéisme, l'a développé, en particulier dans la paracha de cette semaine, juste au moment de la tour de Babel. C'est à ce moment-là qu'Abraham a commencé à professer, à s'opposer à Nimrod et à dire à tout le monde que c'était un chemin, donc une voie sans issue, que ce qu'il fallait, c'est croire en un Dieu unique. Et il s'est opposé très clairement face à Nimrod. Eh bien, effectivement, Abraham est celui qui donne une tsoura, une direction au monde entier. Et ce qu'une femme attend avant tout d'un mari, c'est d'être prise en main, dans quel sens ? Non pas forcé, non pas d'avoir un mari macho, mais un mari qui a véritablement un vrai projet de vie et sur lequel elle peut s'appuyer. Un mari en qui elle a confiance et qui la rassure parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui sait où elle va. C'est où il va. Et donc, si son mari sait où il va, elle va adhérer si son mari sait le lui transmettre, lui expliquer et la convaincre. Et elle cherche à être convaincue par un mari qui sait justement qu'il y aura des arguments. Ce qu'une femme ne supporte pas, c'est un mari justement qui n'a pas de direction dans la vie. S'il va là, ici et là, il n'a aucune direction, elle se sent complètement perdue. Donc ici, c'est très intéressant de remarquer que même Sarah, cette personnalité extraordinaire, la matriarche par excellence de notre ancêtre à tous, eh bien, cette femme, elle a aussi reçu de son mari et de son père. Son père, c'est le frère d'Abraham. Et elle a reçu de son père et d'Abraham, et surtout de son mari, une vraie conscience de ce que doit être la vie. Et elle a dépassé Abraham dans un certain domaine. Et donc, la Torah, elle voit comme ça le mariage, comme étant d'abord une femme qui est avec un mari qui a une vraie ambition de vie, un vrai projet de vie, un vrai regard vers l'avenir, une vraie construction, et qui en même temps sera capable de dépasser un jour son mari tellement elle aura compris, elle aura vraiment adhéré, compris vraiment le message de son mari, qu'il a censé lui-même recevoir de son maître, puisque chez nous, chaque juif est censé avoir un maître qui va lui montrer le chemin, mais après ne pas faire simplement de la sagerie, reproduire ce que dit le maître, mais le comprendre bien et l'intégrer et en faire quelque chose de personnel. Donc, la femme va recevoir de son mari, mais après, elle risque de le déplacer, d'ailleurs c'est le but, la Eshet Ra'il qui est à Teret Baala, qui est la couronne de son mari, comme Sarah qui a été d'abord l'élève d'Abraham avant de devenir quelque part un peu celle qui l'a dépassé, Beruach HaKodesh. Donc, inspirons-nous de cette vision de Sarah et sachons écouter nos femmes lorsqu'elles ont des belles choses à dire, mais sachons aussi, nous les hommes, à être ceux qui sont force de proposition, d'idéaux et de porter véritablement des valeurs, parce qu'une femme, elle a besoin évidemment d'affection, elle a besoin d'attention, mais elle a besoin surtout de sentir qu'elle a un mari qui sait où il va et qui a un vrai projet de vie. Shabbat shalom à tous.
Shabbat shalom, Rav Gueh, quel bel enseignement. Et en vous écoutant, je me disais, ben oui, celui qui se marie entame une nouvelle vie, tu sais. Donc, mais je pensais aussi, puisqu'il y a l'expérience qui ajoute, que beaucoup croient qu'en divorçant, ils vont avoir une nouvelle vie. Et je peux vous dire que c'est tout à fait le contraire en général. On voit ça autour de nous partout. Rav Gueh, je vous remercie. Et je vous souhaite un... Ah ben d'abord déjà, Chodesh Tov, parce que ça fait toujours plaisir de se dire des bonnes choses. En plus, comme ça, vous allez donner une bracha. Et Shabbat Shalom.
Chodesh Mevorach, un très bon mois à tous. Un très très bon mois et plein de bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem, la paix très très bientôt en Eretz Israël, au Liban, à Gaza, partout. De très très bonnes nouvelles et le retour de nos otages.
Amen. Amen. Et Shabbat Shalom. Bonsoir à vous, Rav Gueh.
Shabbat Shalom. Au revoir. Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy bay, Hashem lo yirne bayis. Shalom leiboy naboy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy bay.